Oui, on va changer de sujet maintenant, mais je vais vous dire, le prochain sujet n'est pas jojo non plus tellement. À 18h05, on va retrouver Richard Châteauvert. Imaginez-vous que le fils d'une juge qui est en charge d'un volet dans l'affaire Epstein a été tué à son domicile par un homme qui s'était déguisé en livreur de FedEx. Le mari est grièvement blessé. Richard Châteauvert, correspondant à New York, bonsoir.
Bonsoir Marie-Claude.
Alors, c'est épouvantable cette histoire-là.
C'est épouvantable, mais l'affaire a été résolue. Alors parlons des faits d'abord. Ça s'est produit vers 17h hier à North Brunswick. C'est une banlieue du New Jersey à 65 km au sud de New York. Il y a un livreur vêtu d'une tenue FedEx qui a sonné à la porte et qui voulait remettre un colis à la juge Esther Salas. C'est la première Latina à avoir été nommée juge fédérale du New Jersey. Elle est basée à Newark. C'est son fils de 20 ans, Daniel Handel, qui a répondu. Il a été atteint d'une balle au cœur et il est mort presque immédiatement. Le mari de la juge, Mark Handel, 63 ans, qui lui est avocat de la défense, a été atteint de plusieurs coups de feu. La juge était au sous-sol, donc elle n'a pas été atteinte du tout. Le mari est dans un état critique mais stable à l'hôpital après avoir été atteint de plusieurs coups de feu. Donc,
oui. Et c'est elle qu'on visait, dans le fond.
Évidemment que c'est elle qu'on visait. Et là, la première chose que les policiers ont faite, le FBI d'ailleurs est impliqué dans l'enquête, la première chose qu'on a faite, c'est de voir la liste des affaires qu'elle avait traitées au cours des dernières années. Il y avait notamment un recours collectif qui a été déposé récemment qui accusait la Deutsche Bank. La Deutsche Bank, c'était la banque de Jeffrey Epstein. C'est aussi, en passant, la banque de Donald Trump. Alors, on accusait la Deutsche Bank d'avoir, de ne pas avoir découvert des transactions douteuses qui ont été faites sur le compte de Jeffrey Epstein. Elle avait également envoyé un membre d'un groupe, d'un gang de rue, les Crips, gang de rue très connue. Elle lui avait donné une sentence de 15 ans d'emprisonnement. Mais au final, ce qui est arrivé, c'est ce matin, à environ 165 kilomètres, en fait 210 kilomètres du lieu du meurtre hier, on a retrouvé un avocat antiféministe qui était mort dans sa voiture ici dans l'État de New York, qui s'appelle Roy Hollander. Et Roy Dan Hollander, c'est un avocat antiféministe très connu. Il avait, dans les années 2000, intenté des poursuites contre les bars, contre les Ladies Night, imaginez-vous, dans les bars. Vous savez, lorsque le mercredi, par exemple, les jours qui sont plus morts pour attirer la clientèle féminine, donc oui, le Ladies Night, oui, tout le monde connaît ça, ça existe dans toutes les villes. Tout à Alors, fait. Pour lui, c'était de la discrimination à l'endroit des hommes. Son affaire a été rejetée. Il avait aussi intenté une action contre l'Université Columbia et son programme d'études féminines. Les programmes d'études féminines, selon lui, braquaient les femmes contre les hommes. C'était de la discrimination. Donc, on a retrouvé près de lui, donc il s'est enlevé la vie au moyen d'une arme à feu. Évidemment, on essaie d'établir un lien entre l'arme à feu qu'il a utilisée et l'arme à feu que le tueur hier a utilisée pour abattre le fils de cette juge,
oui,
Esther Salas.
Et Richard, si le lien a été fait si rapidement, c'est parce qu'il y avait des preuves avec lui?
Oui, il y avait des preuves avec lui. Il y avait des notes sur la juge Esther Salas. Il avait déjà écrit des notes. Je pense que c'était en ligne. Il l'avait traitée d'incompétente et de paresseuse. Il y avait aussi, c'était un colis FedEx qu'on a retrouvé dans sa voiture adressé à la juge Esther Salas. Donc, ouais, il avait sans doute ce colis dans les mains lorsqu'il a sonné à la porte hier. Mais ce n'est pas tout. Il est maintenant lié au meurtre d'un autre avocat, pas antiféministe, un avocat pro-homme, le vice-président de la Coalition nationale pour les hommes, Gary Andelucci, qui a été tué il y a qui a eu 9 jours en banlieue de Los Angeles. Et ce qui est assez intéressant, c'est, Marc Angelucci, 52 mm-hmm. ans. Ce qui est assez intéressant, c'est que le mode opératoire est le même. Marc Angelucci, c'était le 11 juillet, il y a 9 jours. Il était chez lui, environ 100 kilomètres au nord-est de Los Angeles avec des amis. Il était 16 heures. La porte a sonné. Un de ses amis est allé répondre et c'était un livreur qui avait un colis pour Marc Angelucci qui insistait pour que Marc Angelucci signe lui-même pour recevoir le colis et des coups de feu ont été tirés. Marc Angelucci est mort presque immédiatement et le faux livreur a pris la fuite. Alors vous voyez, il y a déjà
incroyable,
un mode opératoire.
Incroyable, mais peut-être que dans les prochains jours, on va découvrir qu'il a tué d'autres personnes aussi.
Peut-être. Alors, pourquoi? Oui. Marc Angelucci, ce n'est pas nécessairement un avocat, antiféministe. C'est un avocat qui luttait pour la protection égale des hommes. Par exemple, il avait aidé à rédiger un projet de loi en Californie contre les fausses actions en paternité. Vous savez que ça arrive souvent.
Oui.
Il trouvait que c'était inconstitutionnel. Il a présenté une action devant un tribunal de Californie qui est toujours devant la cour d'appel qui était contre le service militaire obligatoire uniquement pour les hommes. C'est la même chose l'autre Roy Dan Hollander, il avait représenté une femme devant la juge Esther Salas, celle dont le fils a été abattu hier.
Oui, oui.
Il représentait une femme qui voulait avoir également le droit de faire son service militaire. Elle voulait que ce soit égal. Donc, ce sont des avocats antiféministes, mais en même temps, vous voyez, ils essaient d'avoir l'égalité des sexes, mais d'un autre point de vue.
Donc,
vous voyez qu'il y a quand même un lien avec un avocat antiféministe et un avocat pro-homme de Californie qui a été abattu il y a 9 jours seulement. Donc, l'enquête va se poursuivre.
On revient à la juge, c'est épouvantable ce qui est arrivé là. Puis, remarquez, l'enquête va être terminée puisqu'ils ont retrouvé le meurtrier. Mais moi, je me disais, l'homme, son mari a été blessé grièvement, mais il a eu le temps de voir le gars aussi. Tu sais,
extrémiste, ce Roy Dan Hollander, 69 ans. C'est clairement un extrémiste antiféministe.
Ouais.
Et il y avait eu une affaire apparemment très minime devant la juge Esther Salas. Pourquoi il l'a ciblée, elle? Est-ce qu'on va le savoir? On ne le sait pas. On a découvert des textes et des recherches qu'il avait faites sur la juge, donc on va en savoir plus peut-être. Mais c'est une affaire qui a été résolue très rapidement. Mais voilà un jeune homme de 20 ans qui voulait devenir avocat comme ses parents et qui était un super bon élève que tout le monde aimait, qui a été abattu sans raison hier. Son père qui a été atteint de plusieurs coups de feu, qui est à l'hôpital. Et cette pauvre juge, Esther Salas, qui est au chevet de son mari. Et les deux pleurent la mort de leur fils.
Ça n'a aucun sens. C'est épouvantable. Mais en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, Richard. Il y avait un excellent article ce matin dans la presse où on découvre qu'il y a une vague de fusillades en ce moment aux États-Unis. Est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce qu'on sait ce qui se passe? Est-ce que la police a décidé de travailler moins fort? Qu'est-ce qui se passe? Même, on parle d'un papa qui est avec sa petite fille et il s'est fait tuer en pleine rue.
Oui, ça, c'est arrivé dans le Bronx, ici, à New York. Écoutez, Le week-end qui vient de passer, là, samedi, dimanche, il y a eu 15 fusillades ici à New York et 16 victimes, dont une est décédée. Entre le 6 et le 12 juillet, ça fait pas longtemps, ces derniers jours, le nombre de fusillades a augmenté de 276% par rapport à la même période l'an dernier et le nombre de personnes qui ont été atteintes de coups de feu a augmenté de 252% par rapport à la même période l'an dernier.
Oui,
Ça, c'est ici à New York. C'est arrivé dans d'autres villes. Selon moi, c'est lié à ce qui est arrivé. Premièrement, c'est lié au manque de ressources économiques. Évidemment, il y a la moitié des gens qui travaillent pas. Le taux de chômage est extrême. Il y a des gens qui sont très pauvres, qui sont incapables de payer leur loyer. Il y a la chaleur. Il y a aussi toutes les manifestations Black Lives Matter contre la police. Il y a les policiers sont en colère. Ici, à New York, on croit qu'ils font la grève du zèle. C'est clair que le temps de réponse aux appels, surtout pour ces appels de coups de feu, est beaucoup plus long. Et ce matin, cet après-midi, j'entendais la procureure du ministère public du Bronx, une noire, qui était en colère à cause des mesures qui ont été prises contre les policiers. Vous savez qu'on a adopté ici un règlement et dans plusieurs villes américaines, dans plusieurs États américains, la fameuse technique d'étranglement qui a causé la mort de George Floyd et de Eric Garner ici en 2014 à New York, elle a été rendue illégale. On a aussi resserré les mesures disciplinaires contre les policiers. Les policiers sont des gens très conservateurs et on est dans un flottement actuellement. Il y a peut-être des mesures qui ont été adoptées trop rapidement
et qui n'ont pas été suffisantes. Hein, il y a une culture.
Il y a une culture de la police. Et là, on appelle ça le mur bleu du silence. Il y a une grande solidarité chez les policiers. Ils n'aiment pas les changements. Mmh. Et c'est sûr que... Mais ce ne sont pas eux qui causent ces fusillades.
Bien sûr.
Ce ne sont pas eux qui causent ces fusillades, mais c'est un équilibre difficile à maintenir entre la répression, la communication avec la communauté. Et il fait très chaud aussi. Hein. Il faut que je le dise. Là, aujourd'hui, je sais qu'il fait chaud à Montréal, mais ici, c'est la journée la plus chaude de l'année. Là. Il fait environ actuellement 36 degrés.
Et c'est humide.
C'est humide. Les gens, il faut le dire, là, tout est chamboulé. Aujourd'hui, à New York, on est passé à la phase 4 de la réouverture de l'économie, mais les restaurants sont toujours fermés à l'intérieur. Il y a juste les terrasses qui sont ouvertes. L'activité économique est extrêmement ralenti. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup, beaucoup moins d'argent dans leur poche qu'il y a un an. Il y a une espèce d'inquiétude et selon moi, ça contribue à ce qui se passe actuellement. Mais il y a toute cette histoire qui est arrivée avec le mouvement Black Lives Matter. Il y a eu beaucoup d'actes anti-policiers. Il y a une femme qui a donné un coup à un policier la semaine dernière ici, c'était sur le pont de Brooklyn, un coup très, très violent parce que les policiers ont été, dans leurs interactions, violents à quelques reprises. Ils ont eu un travail très, très difficile à faire lorsqu'il y a eu les manifestations à la suite de la mort de George Floyd, surtout le pillage. Et selon moi, ils ont été assez mesurés. Il y a eu quelques débordements, mais on est dans un flottement actuellement et les policiers font nettement la grève du zèle.
Oui.
Le temps de réponse aux appels est plus lent.
Oui, et vous parliez d'une fatigue, mais je pense qu'il y a aussi d'inquiétude, mais il y a aussi du désespoir dans tout ça quand on
on est dans une pandémie.
Oui,
c'est du jamais vu.
Exact.
Puis New York, c'est un équilibre, c'est un édifice dont l'équilibre est très ténu. C'est pas facile pour les gens des classes défavorisées de faire de l'argent, de payer leur loyer. Tous ces gens-là sont incapables de payer leur loyer. La seule raison pour laquelle ils sont pas expulsés, parce qu'on a adopté des lois pour les protéger.
C'est ça. Alors, écoutez, Richard, on va devoir se laisser là-dessus. Le temps file trop vite, malheureusement, mais ça a été un plaisir de vous parler malgré ces circonstances désolantes. Merci infiniment, Richard.
À la prochaine.